Ivanhoé, chapitre 10. Ainsi, comme le hibou au sinistre présage qui de son gosier criard teinte la dernière agonie de l'homme et lui annonce sa fin prochaine, et dans l'obscurité silencieuse de la nuit secoue la contagion de ses ailes funestes, de même, oppressé, tourmenté, le pauvre Barabbas vomissait des torrents d'injures contre les chrétiens. Christopher Marlowe, le Juif de Malte. Aussitôt que le chevalier déshérité fut entré dans sa tente, des pages et des écuyers se présentèrent pour l'aider à se désarmer et lui offrir de nouveaux vêtements et le rafraîchissement du bain. Leurs ailes étaient peut-être aiguillonnées par la curiosité, car chacun désirait savoir quel était le chevalier qui, après avoir cueilli tant de lauriers, refusait de lever sa visière et de se nommer. Leurs officieuses instances furent sans résultat. Le chevalier refusa leur secours et se borna à recevoir les services de son écuyer, ou plutôt de l'archer dont il était accompagné, homme d'une tournure assez rustique, couvert d'un surtout de feutre noir et portant sur la tête un bonnet normand de même feutre qui lui couvrait la moitié de la figure. Il semblait désirer autant que son maître de garder l'incognito. Resté seul dans la tente, il l'aida à se débarrasser de son armure, puis plaça devant lui du vin et des aliments que les fatigues de la journée lui rendaient très nécessaires. À peine le chevalier finissait-il son frugal repas que son écuyer lui annonça que 5 hommes d'armes, montés sur des chevaux barbes, désiraient lui parler. Il avait remplacé son armure par une longue robe telle qu'emportaient les personnes de sa condition, et garnie d'un capuchon à l'aide duquel on pouvait cacher ses traits aussi complètement que sous la visière d'un casque. D'ailleurs, la nuit qui commençait à tomber rendait ce déguisement inutile, à moins que les personnes qui se présentaient n'eussent connu sa figure. S'avançant donc hardiment jusqu'à l'entrée de sa tente, il y trouva les écuyers des 5 tenants, qu'à leur costume rouge et noir il n'eut pas de peine à reconnaître, et chacun lui présenta la rançon de son maître, c'est-à-dire le coursier et l'armure avec lesquelles ils avaient combattu. « Conformément aux lois de la chevalerie, dit le premier de ces hommes, moi, Baudouin d'Oillet, écuyer du redoutable chevalier Brian de Boisguilbert, je vous offre, à vous qui prenez la qualification de chevalier déshérité, le coursier et l'armure dont s'est servi ledit Brian de Boisguilbert dans la passe d'armes de ce jour, laissant à votre générosité de les garder ou d'en fixer le prix conformément à votre bon plaisir. Car telle est la loi des armes. » Les autres écuyers répétèrent à peu près la même formule et attendirent la réponse du vainqueur. « Je n'ai qu'une seule et même réponse à faire à chacun de vous, dit-il en s'adressant aux 4 derniers écuyers. Complimentez de ma part vos honorables maîtres, et dites-leur que je croirais manquer aux égards qu'ils méritent si je les privais de leurs chevaux et de leurs armures, qu'ils ne sauraient appartenir à de plus braves champions. Je voudrais borner là mon hommage, mais, étant de fait déshérité et sans ressources, je suis dans la nécessité de prier vos maîtres de bien vouloir, par courtoisie, racheter cette dépouille, car à peine l'armure que je porte m'appartient-elle. Nous avons, dit l'écuyer de Réginald Front de Bœuf, la mission de vous offrir chacun 100 sequins pour la rançon de ses chevaux et de ses armures. Cela suffit, répondit le chevalier déshérité. Mes besoins présents m'obligent d'accepter la moitié de cette somme. Vous garderez l'autre moitié. Partie pour vous, partie pour être distribuée aux héros, aux poursuivants d'armes et aux ménestrels. Les écuyers, la toque à la main et en faisant de profondes salutations, remercièrent le chevalier déshérité d'une si rare courtoisie et d'une si grande générosité. Se tournant alors vers Baudouin, l'écuyer du chevalier du Temple, celui-ci ajouta « Dites à votre maître que je n'accepte de lui ni armure ni rançon. Notre querelle n'est point vidée. Elle ne le sera qu'après que nous aurons combattu avec l'épée comme avec la lance, à pied comme à cheval. Il m'a lui-même défié à un combat à outrance, et je ne l'oublierai pas. Dites-lui bien que je ne le regarde pas du même œil que ses autres compagnons, avec lesquels je ferai volontiers échange de courtoisie. Mais que, pour ce qui est de lui, je ne saurais le traiter autrement que comme un ennemi mortel. Mon maître, répondit Baudouin, sait rendre mépris pour mépris, coup pour coup et courtoisie pour courtoisie. Puisque vous dédaignez d'accepter de lui aucune rançon, je dois laisser ici son armure et son cheval, bien assuré qu'il ne voudra jamais ni monter l'un ni porter l'autre. Vous parlez bien, digne écuyer, reprit le chevalier, et comme il convient à celui qui répond pour son maître absent. Toutefois, ne laissez ni le coursier ni l'armure. Ramenez-les à votre maître, et s'il refuse de les reprendre, gardez-les, mon ami, pour votre propre usage. En tant qu'ils m'appartiennent, je vous en fais présent. Baudouin le salua humblement et se retira avec ses compagnons, tandis que le chevalier déshérité rentrait dans sa tente. « Eh bien, Gurt, dit-il à son écuyer, la réputation des chevaliers anglais n'a pas souffert dans ma personne. »« Et moi, dit Gurt, pour un porcher saxon, je n'ai pas mal joué le rôle d'écuyer normand. »« Cela est vrai, mais tu m'as toujours tenu dans l'inquiétude. Je craignais que ta gaucherie ne te trahît. »« Bah, je ne crains d'être connu par personne, si ce n'est par mon compagnon Vamba le bouffon, dont je n'ai jamais pu dire s'il est plus malin que fou. » Cependant, je n'ai pu m'empêcher de rire lorsque mon vieux maître a passé si près de moi, en songeant que tandis que son porcher, qu'il croit occupé de son troupeau dans les bois et les marais de Rotherwood, se trouvait si près de lui. Si j'avais été découvert... Bon, tu n'as pas oublié ma promesse. Quant à cela, je ne manquerai jamais à un ami, par crainte pour ma peau. J'ai le cuir aussi dur que celui d'un verra, et je supporterai aussi bien les coups de verge qu'aucun de ceux de mon troupeau. Crois-moi, Gurt, je te récompenserai du risque que tu cours par affection pour moi. En attendant, accepte ces 10 pièces d'or. Me voilà donc plus riche, dit Gurt en les mettant dans sa poche, qu'aucun porcher ou serf ne le fut jamais. Maintenant, prends ce sac rempli d'or, va trouver à Ashby Isaac D'York, reconduis-lui le cheval qu'il m'a prêté, et dis-lui de se payer du prix de l'armure. Non, de par Saint-Dustan, je n'irai pas. Comment, drôle, tu refuses d'obéir? J'obéirai lorsque vos ordres seront justes, raisonnables, et dignes d'être exécutés par un chrétien. Mais celui que vous me donnez est loin de cela. Souffrir qu'un juif se payât lui-même ne serait pas équitable, car il tromperait mon maître. Ce ne serait pas non plus raisonnable, puisque ce serait agir en fou, et bien moins chrétien encore, puisque ce serait dépouiller un croyant pour enrichir un infidèle. Il faut cependant le satisfaire. Je le satisferai, dit Gurt, en prenant le sac sous son manteau et en sortant de la tente. Et j'aurai bien du malheur, murmura-t-il entre ses dents, si ce n'est pas satisfait avec le quart de ce qu'il pourrait demander. Et prenant le chemin d'Ashby, il laissa le chevalier déshérité s'abandonner à de pénibles réflexions. Mais il n'est pas temps encore d'en faire part au lecteur. Il faut maintenant changer le lieu de la scène et nous transporter dans la ville d'Ashby, ou plutôt dans une maison du voisinage appartenant à un riche israélite, chez lequel Isaac, sa fille et leur suite avaient établi leur quartier. Car les juifs exerçaient entre eux l'hospitalité et la charité d'une manière aussi généreuse qu'ils montraient d'avarice et de cupidité envers les chrétiens. Dans un appartement peu spacieux mais richement décoré dans le goût oriental, Rebecca reposait sur une pile de coussins brodés, placés sur une plateforme médiocrement élevée qui régnait tout autour de la salle. Ces coussins tenaient lieu de chaises et de fauteuils, comme l'estrade espagnole. Elle observait avec une inquiète et tendre sollicitude tous les mouvements de son père, tandis que, d'un air qui annonçait l'agitation de son esprit, celui-ci se promenait dans l'appartement, tantôt joignant les mains, tantôt levant les yeux vers le plafond comme un homme en proie à une vive affliction. « Ô Jacob ! S'écria-t-il. Ô vous, les 12 saints patriarches de notre tribu ! Quelle funeste aventure pour un homme qui a toujours fidèlement rempli les devoirs d'un enfant de Moïse ! 50 sequins arrachés en un clin d'œil, et par les griffes d'un tyran !»« Mais mon père, lui dit Rebecca, il me semblait que vous donniez volontairement cet or au prince. » « Volontairement, puissent les plaies de l'Égypte tomber sur lui !»« Volontairement, dis-tu ? » ?»« Oui, aussi volontairement que lorsque dans le golfe de Lyon, je jetais à la mer mes marchandises pour alléger notre navire pendant que la tempête menaçait de l'engloutir. Oui, aussi volontairement que je vis mes soies les plus précieuses, entraînées par les vagues, ma myrrhe et mon aloès parfumer les flots de l'océan, mes vases d'or et d'argent allaient enrichir ces noirs abîmes. » N'était-ce pas un moment d'angoisse inexprimable, quoique ce sacrifice fût l'œuvre de mes mains? Mais c'était pour sauver nos jours, mon père, et depuis ce temps le Dieu d'Israël a béni vos entreprises et vous a comblé de richesses. Oui, mais si le tyran y puise comme il l'a fait aujourd'hui, mais s'il m'oblige à sourire pendant qu'il me dépouille, ô ma fille, voler, errant comme nous le sommes, le plus grand malheur qui puisse atteindre notre race, c'est que, au moment même où l'on nous pille, où l'on nous outrage, nous sommes en butte aux moqueries du monde, et forcés de nous montrer patients et résignés, quand nous ne devrions penser qu'à une courageuse vengeance. Bannissez ces pensées, mon père. Nous avons d'autres avantages. Ces gentils, si cruels, si oppresseurs qu'ils soient, dépendent en quelque sorte des enfants dispersés de Sion qu'ils méprisent et qu'ils persécutent. Sans le secours de nos richesses, ils ne pourraient ni faire la guerre ni décorer les triomphes de la paix. L'or que nous leur prêtons rentre avec intérêt dans nos coffres. Nous ressemblons à l'herbe, qui n'en fleurit que mieux quand le pied l'a foulée. Même la fête d'aujourd'hui n'eût pas eu lieu sans l'aide et l'appui de ces juifs méprisés, qui ont fourni les moyens de subvenir à la dépense. Oh, ma fille, tu viens de toucher une corde dont les vibrations me causent une autre douleur. Ce beau coursier, cette riche armure, dont la valeur égale les profits que je retire de ma dernière affaire avec Kirgat Jairam de Leicester, c'est-à-dire mes bénéfices d'une semaine, oui, de l'intervalle qui sépare deux sabbats, eh bien, il en sera peut-être de ces objets comme des marchandises englouties par la mer. Le malheur, la ruine me poursuivent. Cependant, il peut arriver mieux que je ne pense, car ce jeune homme est un bon, un brave jeune homme. Assurément, vous ne vous repentirez pas d'avoir reconnu le service que vous a rendu ce chevalier étranger. Je le crois, ma fille, et je crois aussi à la reconstruction du temple de Jérusalem. Mais j'ai autant de raisons d'espérer voir de mes propres yeux un chrétien payer une dette à un juif, sans avoir en perspective la crainte du magistrat ou de la prison. » En parlant ainsi, il continuait à se promener dans l'appartement d'un air d'inquiétude. Et Rebecca, voyant que ses efforts pour le consoler ne servaient qu'à éveiller en lui de nouveaux sujets de plainte, se décida sagement à garder le silence, conduite que nous recommanderons à tous les consolateurs et à tous les donneurs d'avis en pareilles circonstances. La nuit venait de tomber lorsqu'un domestique juif entra dans l'appartement et déposa sur la table deux lampes d'argent remplies d'une huile parfumée, tandis que deux autres apportaient sur une table d'ébène incrustée d'ornements en argent les vins les plus rares et les rafraîchissements les plus exquis. Car, dans l'enceinte de leur maison, les Juifs ne se refusaient aucune espèce de luxe. En même temps, l'un d'eux annonça à Isaac qu'un Nazaréen, nom que les Israélites avaient coutume entre eux de donner aux chrétiens, désirait lui parler. Quiconque vit du commerce doit être à la disposition de ceux qui se présentent chez lui. Isaac remit aussitôt sur la table la coupe pleine de vin grec qu'il venait de porter à ses lèvres, et, ayant recommandé à sa fille de se voiler, il dit « Qu'on introduise l'étranger !» Rebecca avait à peine eu le temps de baisser sur ses traits délicats un voile de gaze brodé en argent qui lui descendait jusqu'aux pieds, que la porte s'ouvrit, et Gurt entra brusquement, affublé de son ample manteau normand. Son aspect était propre à faire naître le soupçon plutôt que la confiance, car, au lieu d'ôter son bonnet, il l'enfonça davantage sur sa tête, de manière à cacher ses épais sourcils. « Es-tu le juif Isaac d'York ? » dit-il en saxon. « C'est moi-même, » répondit Isaac dans le même idiome, car son commerce lui avait rendu familier tous les dialectes en usage de la Grande-Bretagne. « Et toi, qui es-tu ? Cela ne te regarde pas. Puisque je te dis mon nom, tu dois me dire le tien, car sans te connaître, comment puis-je traiter d'affaires avec toi ? Cela n'est pas nécessaire, car comme je viens payer une dette, il faut que je connaisse la personne à laquelle je dois remettre l'argent dont j'en suis porteur. Mais toi, qui as seulement à le recevoir, il doit être entièrement indifférent de savoir par quelle main il t'est remis. « Oh ! Dit le juif, vous venez pour me payer une dette ! Bienheureux Abraham, cela change l'affaire, et de la part de qui apportez-vous cet argent ?»« De la part du chevalier déshérité, vainqueur dans le tournoi qui a eu lieu aujourd'hui. C'est le prix de l'armure que lui a prêté Kirgat Jairam de Leicester, sur ta recommandation. Quant au coursier, je l'ai remis dans ton écurie. Combien te faut-il pour l'armure ? J'avais bien dit que c'était un brave jeune homme, s'écria le juif au comble de la joie. Un coup de vin ne vous fera pas de mal, ajouta-t-il en présentant au porcher un gobelet d'argent richement travaillé et plein d'une liqueur telle que Gurt n'en avait jamais goûté de pareille. Et combien d'argent as-tu apporté ? Sainte Vierge, s'écria Gurt en remettant la coupe sur la table. Quel nectar boivent ces chiens de mécréants, tandis que de vrais chrétiens comme moi n'ont souvent qu'une bière aussi trouble et aussi épaisse que la lavure que nous donnons à nos pourceaux. Combien d'argent j'ai apporté ? Fort peu. Cependant, je ne suis pas venu les mains vides. Écoute, Isaac, tu dois avoir de la conscience, tout juif que tu es. Mais ton maître a gagné de bons chevaux, de riches armures à la pointe de sa lance et par la vigueur de son bras. C'est un brave jeune homme. Le juif les prendra en paiement, et lui tiendra compte du surplus. Mon maître en a déjà disposé. Ah, il a eu tort. C'est agir en insensé. Aucun chrétien ici ne pouvait acheter tant de chevaux et d'armures, et aucun juif ne pouvait lui donner la moitié de ce que j'en eusse offert. « Mais tu as au moins 100 sequins dans ce sac, » dit-il en entr'ouvrant le manteau de Gurt. « Il me semble pesant. »« Il s'y trouve des fers pour armer des flèches, » répondit le porcher d'un ton d'assurance. « Eh bien, si je me contentais de 80 sequins pour cette riche armure, ce qui ne me laisserait pas une pièce d'or de bénéfice, avez-vous de quoi me payer ? C'est tout au plus, et je resterai presque sans le sou. Cependant, si c'est votre dernier mot, il faudra prendre mon parti. » « Vide encore une coupe de vin. Ah, 80 sequins, c'est trop peu. J'ai parlé trop légèrement. Il ne resterait rien pour l'intérêt de l'argent. D'ailleurs, le cheval peut avoir souffert dans les différents chocs qu'il a soutenus. Oh, c'était une terrible lutte. Le chevalier et le coursier s'élancèrent l'un sur l'autre avec la fureur des taureaux sauvages de Bazan. Oui, le coursier ne peut qu'avoir beaucoup souffert. Je vous dis que je l'ai ramené sain et sauf dans votre écurie. Vous pouvez vous en assurer. J'ajoute que 70 sequins suffisent pour l'armure. La parole d'un chrétien vaut celle d'un juif, ce me semble. Si vous n'acceptez pas cette somme, je rapporterai ce sac à mon maître, ajouta-t-il en faisant sonner les pièces d'or qu'il renfermait. Non, 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 non. Déposez les talents, les shekels, comptez les 80. Comptez les 80 sequins, et j'userai à votre égard de libéralité. Son maître, lui ayant dit qu'il voulait que le juif fût content, Gurth se rendit à cette demande et déposa sur la table 80 sequins, dont Isaac lui délivra quittance pour le prix de l'armure. La main d'Isaac tremblait de joie en touchant les 70 premières pièces d'or. Il compta les 10 autres beaucoup plus lentement en faisant une pause à chacune et en prononçant quelques mots à voix basse. À mesure qu'il les prenait sur la table pour les mettre dans sa bourse, il semblait que son avarice l'emporta sur un sentiment plus noble et le força d'embourser les sequins l'un après l'autre, tandis que sa générosité le poussait à reconnaître par un présent la condescendance de Gurth et à remettre une partie du prix à son bienfaiteur. Tout son discours se réduisait à peu près à ceci. 71, 72, ton maître est un bon jeune homme. 73, un excellent et un bon jeune homme. 73, un excellent homme. 74, cette pièce est un peu usée. 75, celle-ci est un peu légère de poids. 76, lorsque ton maître aura besoin d'argent, qu'il vienne trouver Isaac York. 77, c'est-à-dire en lui donnant les sûretés raisonnables. Ici, il s'arrêta. Et Gurth conçut la douce espérance que les 3 dernières pièces n'auraient pas le même sort que les précédentes. Mais Isaac continua. 78. 78. Tu es un bon garçon. 79. Tu mérites récompense. Il s'arrêta de nouveau et, regardant le dernier sequin, probablement avec l'intention de l'offrir à Gurth, il le pesa sur son doigt, puis le fit sonner en le jetant sur la table. S'il eût été rogné, s'il eût été tant soit peu trop léger, la générosité eût emporté la victoire. Mais malheureusement pour Gurth, la pièce rendit un son plein et régulier, et Isaac, reconnaissant qu'elle était au-dessus du poids légal, ne put trouver dans son cœur assez de force pour s'en séparer. Il la fit donc tomber dans sa bourse comme par inadvertance, en disant « 80 !»« La somme est complète, et j'espère que ton maître te récompensera convenablement. Je suis sûr, ajouta-t-il en jetant sur le sac un œil avide, je suis sûr que tu as plus de pièces d'or que tu ne disais. » Gurth fit une grimace qui lui était ordinaire lorsqu'il voulait sourire, et répondit « Environ la même quantité que tu viens d'en compter avec tant de soin. » Pliant alors la quittance, il la mit dans sa toque en ajoutant « Malheur à ta barbe, juif, si cette quittance n'est pas en règle. » Prenant ensuite sans cérémonie le flacon de vin, il remplit pour la 3e fois sa coupe, la vida et sortit. « Rebecca, dit le juif, cet ismaélite dépasse toutes les bornes. Il me paraît un peu effronté. Mais n'importe, son maître est un bon jeune homme, et je suis bien aise qu'il ait gagné des shekels d'or, des shekels d'argent, grâce à la vigueur de son cheval et à la force de sa lance, qui, comme celle de Goliath le Philistin, pourrait se comparer en puissance au cylindre qui retient la toile du tisserand. » Ne recevant pas de réponse, il se retourna et s'aperçut que, pendant sa dispute avec Gurth, Rebecca était sortie de l'appartement. Cependant, le porcher venait de descendre l'escalier et, parvenu dans une antichambre obscure, il en cherchait la porte à tâtons, lorsqu'une femme, vêtue de blanc, qui portait à la main une petite lampe d'argent, lui fit signe de la suivre dans la pièce voisine. Gurth éprouvait quelque répugnance à obéir à cet ordre muet, car, hardi et impétueux comme un sanglier dans toutes les occasions où il pouvait compter sur sa force corporelle, il était imbu des craintes superstitieuses que les Saxons avaient apportées de la Germanie, relativement aux spectres et aux apparitions de tout genre. La présence inattendue de cette femme blanche, surtout dans la maison d'un juif, peuple auquel un préjugé universel attribuait la science de la cabale et de la nécromancie, réveilla en lui quelques craintes. Cependant, après un moment d'hésitation, il se détermina à la suivre jusque dans la pièce dont elle avait ouvert la porte. « Mon père n'a voulu que plaisanter avec toi, mon ami, lui dit Rebecca qu'il trouva dans cet appartement. Il doit à ton maître beaucoup plus, 10 fois plus que l'armure et le coursier ne valent. Quelle somme lui as-tu payé ?»« 80 sequins, répondit Gurth, étonné de cette question. Tu en trouveras 100 dans cette bourse que je te prie d'accepter, repartit Rebecca. Rends-en 80 à ton maître et garde pour toi le reste. Hâte-toi, pars, ne t'arrête point à me faire d'inutiles remerciements, et prends garde en traversant la ville, car tu pourrais facilement perdre à la fois ce trésor et la vie. Reuben, ajouta-t-elle en frappant des mains, éclaire cet étranger, et ne manque pas de bien fermer la porte quand il sera sorti. Reuben, israélite à barbe et sourcils noirs, obéit à sa maîtresse, et prenant la lampe qui se trouvait encore dans les mains de la servante, il conduisit Gurt jusqu'à la porte de la maison en le faisant passer par une cour pavée. Puis il referma cette porte avec des chaînes et des verrous semblables à ceux d'une véritable prison. « Par saint d'Unstan, dit le porcher en trébuchant dans la sombre avenue, « cette fille n'est pas une juive, mais un ange descendu des cieux. Dix sequins de mon jeune maître vint de cette perle de Sion. Oh, quelle heureuse journée! Encore une semblable, Gurt, et tu pourras te racheter de l'esclavage, et devenir aussi libre parmi ceux de ta tribu que le noble du rang le plus élevé. Alors, adieu la cornemuse et le bâton de porcher. Je m'arme de l'épée et du bouclier pour suivre mon jeune maître au champ d'honneur, et m'attacher à lui jusqu'à la mort, sans plus cacher ni ma figure, ni mon nom. »